Nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique numéro 68. Terrorist Networks. Une émission qui vous est proposée par Gilles Gouget, Anaël Navarro et Pascal Rullier, moi-même qui présentera cette émission, en compagnie de Cédric Chapuis de Montpellier Libre. Bonsoir.
Bonsoir.
Et à la technique, n'oublions pas El Caquito Bruno Bertrand. Une divergence numérique où nous ne parlerons pas de nouvelles du front, exceptionnellement. Un petit repos. Et puis, on va parler spécialement de Solution Linux 2010, où Divergence était présent la semaine dernière. Donc, Solution Linux Open Source 2010 est un salon qui se tenait au parc des Expos Portes de Versailles à Paris. Et c'est un salon qui rassemble en fait des acteurs du libre, des entreprises et des associations. Alors on va découvrir tout cela avec du son que j'ai rapporté dans ma musette. Et on va commencer tout de suite par Carole Jardon, qui est responsable du salon Solution Linux 2010. Je suis maintenant en compagnie de Carole Jardon, qui est responsable du salon Solution Linux 2010. Bonjour.
Bonjour.
Déjà une petite présentation donc de l'organisation et de ce salon, qui en est à quelle édition. Et mes questions vont être assez simples. Pourquoi un tel salon et comment ça se passe en général entre donc un salon assez particulier puisqu'il regroupe des entreprises et aussi des associations du libre.
Tout à fait. Alors, en fait, on a créé Solution Linux qui s'appelait Linux Expo au démarrage en 99. Nous en sommes donc à la 12e édition de ce salon qui a changé de nom entre-temps, donc qui s'appelle Solution Linux Open Source. Le village associatif a toujours été présent sur cette exposition. C'est agrandi de façon très élargie puisqu'aujourd'hui, il y a 65 associations qui sont présentes sur le salon. Et en tout, on a 220 exposants sur cette édition.
Le libre dans tout ça, c'est un thème comme un autre thème, ou c'est quelque chose qui vous tient un petit peu plus à cœur, ou ça fait partie de l'air du temps?
Alors en fait, j'étais à l'origine et à la création de ce salon, donc je ne peux pas dire que ça fait partie de l'air du temps. Pour moi, c'était important. À l'époque, j'avais pas forcément c'est le créateur du salon, donc Sacha Duna, lui savait exactement ce qu'était Linux. Moi, je découvrais totalement. Donc depuis, par contre, j'ai appris à le découvrir, à l'aimer et puis à connaître l'ensemble de l'écosystème.
Et dans cette édition 2010, quelles sont, on va dire, les nouveautés par rapport à 2009, puisqu'on en a parlé sur nos ondes en 2009?
Alors c'est vrai qu'en 2009, on a eu beaucoup de choses. En plus, on fêtait les 10 ans du salon, il y avait beaucoup d'annonces. Là, cette année, on a différentes annonces d'exposants. Par rapport au salon purement, on a mis beaucoup d'animation, notamment un plateau TV avec des débats assez forts, des interviews des exposants. On a accueilli un village tunisien, c'est une nouveauté pour nous. Vous avez la présence forte de Microsoft qui ouvre le débat avec l'ensemble des gens de l'open source.
Quelle visibilité en fait a ce salon par rapport à d'autres salons, salons sur l'open source évidemment, et salons aussi dans le cadre informatique?
Alors il faut savoir qu'en fait je suis directrice de pôle chez Tarsus de deux salons, IP Convergence et Solutions Linux. Ce sont deux salons très différents. Nous, au niveau de Solutions Linux, l'année dernière, il y a vraiment eu un virage au niveau du professionnel et du décisionnaire sur le salon. On a eu un gros pourcentage de grands comptes qui sont venus sur 2009. J'attends forcément les statistiques sur 2010 pour vous dire exactement ce qui sera passé pendant le salon au niveau des visiteurs. Et au niveau du bilan, dès vendredi matin, on pourra faire un bilan du salon et des visiteurs qui seront passés.
Vous envisagez déjà l'édition 2011 ?
2011, on reste à la porte de Versailles. On sera tout début avril, si je me rappelle bien, 5, 6, 7 avril 2011 à la porte de Versailles.
Et ce sera toujours Solution Linux Open Source ?
Ça sera toujours Solution Linux Open Source avec des nouveautés forcément. On va élargir les tables rondes, les thématiques. On veut vraiment partir. En fait, c'est un salon qui est très très large au niveau de... Enfin, toutes les solutions informatiques open source sont présentes sur le salon. Non, c'est vraiment un salon quand même qui est informatique avec des solutions pour optimiser le système d'information des entreprises.
Donc pas de MAO, on va dire. Pourquoi pas ?
Pourquoi pas, c'est vrai, pourquoi pas. J'y ai pas réfléchi, mais ça peut être une piste de réflexion. Je vous en remercie, on peut y travailler.
Et oui, on peut y travailler, peut-être une ouverture sur la musique, les logiciels pour faire de la musique, puisque là, c'était plutôt très orienté quand même vers tout ce qui est serveur, hébergement, cluster, cloud computing, etc. Cette 12e édition du salon confirme son statut de carrefour d'échange incontournable des acteurs du logiciel libre et de l'open source, dit le site solutionlinux.fr. La fréquentation 2010 a atteint le nombre de 8212 visiteurs, un chiffre stable par rapport à l'édition précédente. On peut noter 210 exposants qui ont bénéficié donc d'une affluence d'entreprises grands comptes qui constituaient 25% des visiteurs contre 30% des TPE. Secteur représenté 12,13% d'administrations publiques et de collectivités locales, 11% issus du secteur de l'éducation et de la formation, 4,84% de la banque, finance, assurance, 4,55% opérateurs, 4,75% commerce et distribution. Le profil des visiteurs comptait 29% de dirigeants et 17% de directeurs fonctionnels. Voilà, on pouvait avoir plus d'informations sur solutionlinux.fr. Donc dans ce salon, on avait une grande partie entreprise et puis une partie associative. On va découvrir une partie entreprise, puis qu'on avait découvert aussi en 2009 avec François-Xavier Guidé, qui est le PDG de Factor FX. Alors je suis avec Factor FX, que j'avais interrogé lors du précédent Solution Linux. Si nos auditeurs sont fidèles, ils sauront. Je suis de nouveau avec eux. Ils vont nous parler déjà un petit peu de Factor FX pour faire un petit rappel pour nos nouveaux auditeurs. Et puis, qu'est-ce qui a changé par rapport à Solution Linux 2009 ?
Alors, bonjour à tous, François-Xavier, je suis gérant de la société Factor FX. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis 2009 ? Déjà un stand plus grand. On a doublé la taille du stand et au sein de Factor FX, on a doublé les effectifs de Factor FX et on a doublé aussi toute la partie commerciale et tout le résultat de Factor FX. Donc le monde du logiciel libre dans le Grand Ouest, parce que nous intervenons surtout dans le Grand Ouest de la France, va plutôt bien. Je vais profiter de ce Solution Linux 2010 pour vous présenter l'équipe de Factor FX. Donc vous avez Laurent à côté de moi, qui s'occupe de toute la partie administration de système et qui est un des nouveaux grands gourous de la solution ILAFAX en France, parce qu'on est en train de développer une solution basée sur ILAFAX qui permet de ripper tout un tas de documents, de formats de documents et avec des projets d'envergure nationale. Donc je vais laisser le micro à Laurent pour se présenter.
Bonjour, je m'appelle Laurent et je travaille pour Factor FX en tant que responsable système réseau. Et au niveau système, plus orienté sur des solutions de fax, de mail to fax et fax to mail. Et donc là, on vient de se lancer dans une solution d'appliance permettant de faire une passerelle du réseau fax au réseau mail avec des solutions Zimbra ou Exchange, avec une prise en charge de plein de formats tels que les formats Microsoft Office, Open Office, et les formats standards aussi, PDF, TIFF, GIF, etc. Et le principe est d'unifier le protocole fax avec le système de messagerie que tout le monde utilise maintenant. Donc de recevoir les fax en tant que pièce jointe et de pouvoir envoyer des mails avec pièce jointe de plusieurs formats sur le réseau fax classique.
Donc moi, Mickaël Gaillard, je suis depuis 4 mois chez Factor FX. Je m'occupe de tout ce qui est développement. Donc actuellement, on travaille avec des plateformes comme WordPress ou Symfony. Et donc on fait de la personnalisation aussi d'applications métiers pour nos clients.
Donc on fait aussi un appel à CV parce qu'on a une grosse progression. Et on va profiter de la radio pour faire un appel à CV. Vous pouvez nous envoyer vos CV à info@factorfx.com. On cherche des développeurs, des admins réseau aussi, et aussi quelques éléments commerciaux qui maîtrisent bien les logiciels libres. Voilà, je vous remercie. À l'année prochaine.
Merci. On va peut-être rappeler où c'est que vous êtes basé.
Alors on est basé dans la Manche, à Granville, en pleine Normandie, dans le bocage normand, à côté du Mont-Saint-Michel. Voilà.
Et en termes de développement d'entreprise, vous êtes toujours localisé à cet endroit-là ou vous cherchez à vous étendre un petit peu plus en dehors de la Bretagne ?
Alors, on essaye de résister au fait d'aller à Paris, mais on se rend bien compte qu'à un de ces quatre, il faudra avoir au moins un bureau. Le siège restera en Normandie, mais on aura peut-être une agence ou quelque chose comme ça à Paris.
FactorFX.com, c'est leur site. Et merci à François-Xavier Guidé pour cette présentation. Alors, on poursuit la visite tranquillement. Et puis, comme j'étais du côté associatif, eh ben, on s'y trouve bien du côté associatif. On est décontracté, on boit de la bière, etc. Alors que de l'autre côté, c'est plus costard-cravate et on parle des langages qu'on ne comprend pas forcément. Donc, on va poursuivre tranquillement cette visite de Solutions Linux 2010, toujours sur les ondes de divergence numérique, avec l'April. C'est tout de suite. Je suis actuellement avec Tanguy Morlier, qui est le nouveau président de l'April, qui va se présenter, nous présenter l'April. Et on va parler aussi de la campagne actuelle candidat.fr. Bonjour.
Bonjour. Bah oui, je suis Tanguy Morlier. Je suis président de l'April depuis le 13 février de cette année. Avant moi, pendant 5 ans, il y a eu Benoît Cibot qui a mené un super travail sur les brevets logiciels, sur DAFSI, sur Adopi et qui a participé au lancement avec des centaines de bénévoles de candidat.fr. Donc l'April, qu'est-ce que c'est ? Ben, l'April, c'est une association de promotion et de défense du logiciel libre. C'est une association qui est supportée par 5000 membres citoyens, 250 entreprises, plusieurs dizaines d'associations. On est présent partout en France, dans 60 pays, et donc on fait la promotion et la défense du logiciel libre. Donc ça veut dire que bah, dans à peu près toutes les sphères, qu'elles soient économiques, politiques, associatives, on essaye aussi un peu syndicale, eh ben, on essaye d'expliquer en quoi le logiciel est important, en quoi il peut être très bénéfique pour beaucoup de gens, et puis essayer de désactiver quelques problèmes de type législatif, par exemple, comme on a vu pendant Adopi, où on s'évertue à faire de la pédagogie autour du fameux mouchard de sécurité qui était dans le cœur de la loi Adopi. Donc voilà, pour nos activités régulières. Alors là, il se trouve que pendant le salon, on a sorti plusieurs choses. On a sorti une étude sur l'innovation qui a démontré que le logiciel libre était utilisé par 90% des entreprises françaises qui innovaient dans l'informatique. Donc ça démontre bien l'apport du logiciel libre dans l'économie française. On est aujourd'hui reçu dans le cadre des négociations d'ACTA par le ministère de l'économie, puisqu'il y a deux négociateurs français qui participent à la confection de cet accord totalement secret. Donc on va aller leur demander que les discussions soient rendues publiques, que les parlementaires puissent faire leur travail de contrôle de l'exécutif. Et puis, on a le fameux candidat.fr, vu qu'on est en période de régionale. Il se trouve qu'y a des dizaines, voire des centaines de bénévoles qui sont allés faire de la vulgarisation du logiciel libre auprès des différents candidats aux élections régionales. On a eu 253 candidats au moins, donc des candidats qui se sont engagés sur le pacte du logiciel libre. C'est-à-dire que bah, les futurs élus aux conseils régionaux s'engagent pour faire la promotion du logiciel libre, utiliser les standards ouverts dès qu'ils le peuvent et faire en sorte que bah, toute la culture du partage dont on fait la promotion devienne une réalité régionale. Il y a 80 têtes de liste, 40 têtes de liste régionaux qui ont signé. Donc ça veut dire qu'ils se sont engagés et on va faire en sorte, durant tout leur mandat, bah, de leur rappeler leurs engagements et de faire en sorte que des choses vraiment jolies pour le logiciel libre se fassent dans toutes les régions françaises. Alors, on a déjà quelques exemples, notamment ici en Île-de-France, où bah, l'ancien conseil régional faisait beaucoup de choses en organisant des salons comme le Forum mondial du logiciel libre, en s'assurant que les marchés publics ne soient pas défavorables au logiciel libre, plein de choses comme ça. Donc bah, on espère que toutes ces expériences qui ont été expérimentées l'année dernière dans de nombreux conseils régionaux, lors de la mandature précédente dans de nombreux conseils régionaux, bah, deviennent une réalité plus ample pour cette nouvelle mandature. Ben, avec la plateforme candidat.fr, il y a nos 5000 adhérents qui localement cherchent ces engagements-là et effectivement seront attentifs à ce que font les futurs exécutifs régionaux. Avec ces centaines de personnes qui sont réparties partout, ils pourront effectivement nous alerter. alerter sur des problèmes des futurs présidents de région qui n'auront pas forcément respecté leurs engagements, mais aussi tout simplement des super expériences de plein de conseillers régionaux qui, parce qu'ils ont compris le libre grâce à tous ces sympathisants de l'April qui sont allés leur expliquer ce que c'était, et parce qu'ils ont compris, ils ont signé les engagements, vont réussir à construire des vraiment très jolies choses autour des logiciels libres, de la culture libre et des nouvelles technologies. Donc toutes les qualités du logiciel libre à travers les quatre libertés qu'on connaît, le fait que ça permette de réduire la fracture numérique, le fait, comme on l'a démontré avec l'étude qu'on a menée avec l'organisateur du salon Solutions GNU Linux, que c'est favorable à l'innovation, le fait que ce serait intéressant par exemple que sur la formation professionnelle les régions participent à la création de filières logiciels libres, parce qu'il se trouve qu'il y a d'un côté 30 000 informaticiens qui sont sans emploi, et de l'autre côté il y a de très nombreuses entreprises qui utilisent ou qui contribuent au logiciel libre qui ne trouvent pas de ressources. En fait, il y a un vrai problème de formation. Là, typiquement, les futurs conseils régionaux pourront mener des actions qui sont très favorables au logiciel libre et très favorables à l'innovation en participant à la création de filières de formation professionnelle destinées au logiciel libre pour apprendre aux gens à travailler dans un univers contributif et comme ça créer de nouveaux emplois.
Et toi maintenant, en tant que nouveau président, quelle va être la future vision de l'April ?
Alors, il se trouve que l'April existe depuis 14 ans. Et depuis 14 ans, on tient à peu près le même discours qui est de faire la promotion du logiciel libre, de ses quatre libertés. On a bien stabilisé la définition. On connaît beaucoup d'acteurs qui font de très jolies choses partout en France et en Europe. Donc, il se trouve que cette année, on a de la chance, c'est qu'a priori, l'actualité législative devrait être un petit peu plus tranquille que l'année dernière. L'année dernière, on a beaucoup communiqué sur Hadopi. Ça a été un danger. On a réussi à limiter les dégâts. On attend toujours les décrets d'application, mais visiblement, ils ont du mal à les produire, donc peut-être qu'on ne les verra jamais. On a passé beaucoup de temps à communiquer sur la partie de défense parce qu'il y avait une vraie urgence. Cette année, on espère qu'on pourra mieux communiquer sur tout ce qu'on fait au quotidien sur la partie promotion, parce qu'il se trouve qu'on fait beaucoup de choses. Je vous parlais tout à l'heure de l'innovation. On prépare aussi un catalogue le catalogue du logiciel libre qui est destiné au grand public, qu'on va essayer de mener avec les différents groupes d'utilisateurs locaux de logiciels libres, produire un catalogue papier à destination du grand public pour expliquer quels sont les besoins qu'ils pourraient combler grâce au logiciel libre, et puis leur expliquer un petit peu les enjeux politiques, philosophiques qu'il y a derrière le logiciel libre. On a déjà quelques exemplaires du catalogue libre qu'on fait circuler, qu'on devrait pouvoir imprimer dans un peu plus grand, avec un peu plus d'exemplaires, les distribuer auprès des GUL, et les GUL pourraient comme ça les vendre pour une somme modique au grand public pour qu'ils s'informent sur ce que c'est réellement le logiciel libre. Donc avoir un objet physique comme ça qui soit joli et qui explique de manière pédagogique ce que c'est que le logiciel libre, il me semble que c'est assez important. Et puis tout ce qu'on peut faire pour valoriser les filières logiciels libres en termes de formation, il me semble que c'est quelque chose qui est important, en plus de tout notre travail, comme ce qu'on fait là depuis 3 jours, de parler de logiciel libre au quotidien à des entreprises, à des citoyens qui viennent nous voir, nous poser des questions, à des associations. Enfin bref, c'est un travail quotidien qu'on réalise.
Tout en gardant évidemment en trame de fond les projets législatifs qui sont donc l'ACTA, tu disais au début, l'OPSI aussi, tout ce qui était paquet télécom, neutralité du net, qui aussi sont des actualités assez brûlantes.
Bien sûr, alors on est toujours très très vigilant sur le côté législatif, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen. On a la chance en France d'être associé à la Quadrature du Net. Donc nous, on intervient sur ce qui est spécifiquement logiciel libre. La Quadrature intervient sur ce qui est spécifiquement liberté numérique. Et en avançant comme ça avec nos deux pieds que sont l'April et la Quadrature, on arrive effectivement à être très efficace aussi bien au Parlement européen qu'au Parlement français. On est toujours aussi vigilant. C'est vrai que sur la LOPSI, on a été un petit peu moins actif que la Quadrature parce que ça touchait le logiciel libre était impacté un tout petit peu à la marge sur deux ou trois logiciels que nous on utilise dans la sécurité comme John the Ripper ou comme Nmap qui pourrait être mise en danger. Il n'y a rien de vraiment avéré. On a fait de la sensibilisation un peu en sous-marin auprès des députés. Certains de nos arguments ont été évoqués en séance. On n'a pas forcément révolutionné les choses à ce niveau-là, mais le gros de la LOPSI, c'était le filtrage de l'Internet. Ça a été localisé grâce au travail de sensibilisation qu'a fait la Quadrature, et c'est ça qui nous importait.
Vous avez donc l'April, des membres de l'April dans les différentes régions, différents départements. Pour rejoindre l'April, comment faut-il faire? Comment faut-il procéder?
C'est très simple, on va sur www.april.org et on a un bouton qui s'appelle adhérer. Et là, il suffit juste de nous donner des informations. La cotisation commence à 10 euros. Donc vraiment, c'est faire un plus un parce qu'il y a deux choses qui sont intéressantes pour nous d'avoir de nombreux adhérents. C'est que lorsqu'on était 200, lorsque mon prédécesseur Benoît Cibot a commencé à être président, il y avait 200 personnes qui étaient adhérentes à l'April. Maintenant, il y a 5300 personnes, personnalités physiques, personnes morales ou personnes physiques, qui sont adhérentes à l'April. Quand on va dans un rendez-vous ministériel comme aujourd'hui au ministère de l'économie ou comme la semaine prochaine au ministère de l'éducation nationale, on ne nous écoute pas du même oreille. On a su développer la qualité de nos argumentaires durant les 14 ans de notre existence, mais maintenant on est mieux écouté et plus on est nombreux, plus on sera écouté. Alors ça, déjà, c'est le nombre, faire le plus un, comme on dit dans notre communauté, c'est quelque chose qui est très important. Après, il ne faut pas se leurrer, pouvoir avoir des financements qui soient pérennes, qui ne soient pas basés sur des financements publics qui s'arrêtent pour des raisons politiques du jour au lendemain et on est obligé de licencier tout le monde. Nous, on a fait le choix d'associer des forces bénévoles parce que sur candidat.fr, par exemple, c'est impossible de faire ça tout seul. On est obligé d'être plusieurs centaines à travailler sur le projet et en même temps d'avoir des permanents qui permettent de gérer le quotidien de l'association, toute la partie comptable, prise de contact, etc., etc. Mais aussi pour aller à des rendez-vous institutionnels. Les gens dans les ministères, ils travaillent en journée. Les hommes politiques, ils travaillent en journée. C'est pareil dans les chambres des commerces et d'industrie. C'est pareil dans beaucoup de grandes associations qu'on va rencontrer. Donc tout ce travail-là, ça se fait en journée. Malheureusement, j'ai beau passer beaucoup de temps en tant que président à l'April, il y a certains jours où je ne peux pas y aller. Le fait qu'on ait 3 salariés, ça permet comme ça de bien fonctionner entre des forces bénévoles hyper motivées sur plein de sujets. On est en train de sur le groupe de travail sensibilisation, sur le groupe de travail diversité, on a des actions sur les marchés publics, sur Libre Association qui a fait un excellent travail, qui a été repris par le portail institutionnel association.gouv.fr. On est en train de monter un groupe de travail sur la coopération Nord-Sud. Enfin, on fait vraiment beaucoup de choses avec du temps 100% bénévole et c'est une grosse part de l'activité de l'April. Mais de l'autre côté, on a besoin de salariés et pour payer nos salariés, on a besoin d'un petit peu de cotisation. Donc c'est pour ça que 5000 personnes qui payent une cotisation de l'ordre de 30 euros, c'est la cotisation médiane, et ça nous permet de pérenniser nos emplois et de faire en sorte que on ait une bonne gouvernance de l'association, qu'il y ait une vraie continuité effectivement depuis 1996 autour de tout ça, et puis que on soit indépendant aussi des entreprises qui nous financent, parce que on a des grosses entreprises comme Thales, comme Google, on a des pure players, des sociétés de services en logiciel libre, on a 250 entreprises qui embauchent quotidiennement des compétences en logiciel libre. L'April, c'est à l'image du logiciel libre. Donc il y a forcément un petit peu de business, il y a beaucoup d'utilisateurs, il y a de très nombreux développeurs, des contributeurs. Nous, on va être à l'image de tout ça. Donc on va voir, des entreprises, mais aussi des citoyens, parce que c'est comme ça qu'on pense que le logiciel libre fonctionne bien et c'est que comme ça qu'on imagine qu'une bonne gouvernance de l'April puisse fonctionner.
Tout en gardant son indépendance propre.
Absolument, mais c'est pour ça qu'une entreprise, typiquement Google, il voudrait nous donner énormément d'argent. Nous, on a plafonné à 10 000 euros et on ne veut pas plus de 10 000 euros parce que tout simplement, si on leur demande plus, le jour où on communique comme on le fait à l'heure actuelle sur ce qu'ils font autour de l'HTML5 et le fait qu'ils n'aient pas voulu que Vogue Orbis soit adopté sur tous les navigateurs et qu'on ait un standard de vidéo et d'audio qui soit adopté par tout le monde, ça c'est hyper pénalisant pour le logiciel libre et si jamais Google nous payait plus, on pourrait pas le dire. Google contribue beaucoup au logiciel libre, mais ils ne font pas que des choses bien et on veut garder la liberté de le dire.
Et les membres entre eux, est-ce qu'ils se retrouvent localement, en région? Ils savent que le voisin est aussi membre de l'April et...
Alors, l'April, ce n'est pas un GUL. On est totalement complémentaire au groupe d'utilisateurs locaux. Donc, nous, ce qu'on conseille à nos adhérents, c'est s'ils ont envie de rencontrer des gens qui pratiquent le logiciel libre au quotidien, il faut aller voir s'il en existe des GUL à côté de chez soi. Dans certaines villes, malheureusement, il n'y en a pas. Donc, on favorise la création de GUL. On espère pouvoir sortir un document qui explique comment on peut créer un groupe d'utilisateurs local dans notre ville ou dans notre région. Par contre, on a un annuaire. C'est-à-dire que tous les membres qui le souhaitent peuvent s'inscrire sur l'annuaire et dire « bah voilà, moi j'habite à tel endroit, je suis disponible pour venir parler logiciel libre avec vous ». Et on organise très régulièrement des pique-niques qui permettent aux membres de se rencontrer localement. Donc le but du jeu, ce n'est pas de faire de une association totalement scindée dans de multiples régions, dans de multiples villes. On pense que c'est important que tout le monde dialogue, qu'il y ait des gens de Montpellier, des gens de Lille, des gens de Paris qui se rencontrent sur les mailing lists et qui dialoguent entre eux. Après, on sait très bien qu'il y a des super travail qui est fait par les GUL quotidiennement, les rencontres régulières, les install parties, mais aussi, par exemple, candidat.fr, il y a une très grande majorité du travail qui est fait par candidat.fr qui est fait grâce à des membres actifs de GUL, parce qu'ils se rencontrent très régulièrement, ils se disent, bon ben voilà, on va écrire un argumentaire pour que le candidat de tel et tel parti signe, parce qu'on pense que c'est important, qu'il fera du bon travail en tant que conseiller régional. Ben, tout ça, c'est fait grâce aux GUL, et l'April n'a absolument pas vocation de se supplanter à ce super travail qui est là. On est totalement complémentaires. Si les gens veulent se rencontrer, eh ben, ils nous mettent un petit mail, ils disent, voilà, je voudrais organiser un pique-nique dans ma ville ou un rendez-vous dans un bar que j'aime bien. Nous, on diffuse l'information. Ils peuvent se rencontrer aussi à travers les différents outils qu'on met à disposition, tels que l'annuaire. On a une carte de la France dans laquelle on voit combien il y a de membres dans son département. Il se trouve qu'il y a des membres dans tous les départements français. Donc il y a vraiment moyen de se rencontrer, il y a même vraiment moyen de faire des choses localement et surtout de dialoguer nationalement. C'est ça qui... parce que les super choses que peuvent faire les Ch'tinux à Lille, bah, je pense que ça peut intéresser, c'est des Montpelliérains. Et l'April est typiquement le lieu d'échange autour de tout ce qu'on fait. On porte ça dans nos gènes, le partage dans le logiciel libre. Donc bah, il faut qu'on continue à partager. Et donc c'est pour ça qu'on pense que c'est important que tout le monde puisse dialoguer comme ça partout en France, voire dans le monde, parce qu'on a près de des adhérents dans près de 60 pays dans le monde.
Je te remercie. Donc on va rappeler, le point de départ, c'est april.org.
Absolument, notre site web www.april.org. Merci à toi.
Je te remercie. Merci Tanguy Morlier, donc le nouveau président de l'April. Vous êtes toujours sur le 93.9 de Divergence FM, dans Divergence Numérique et puis sur divergence-fm.org pour ceux qui nous écoutent à travers nos chers paquets IP de l'Internet non encore filtrés. On va s'accorder une petite pause musicale pour respirer un peu avec Rimmer à gage prod honneur. Extrait de l'album XL par NCA Crew. Il s'appelle comme ça. On peut les retrouver sur Dogmazic. Vous avez tous les liens sur l'article de l'émission. Et c'est en Creative Commons by NC Andy 2.0.
Rimeur à gage, métaphore chargée, gâchette enclenchée, barillet clean. Les balles se crachent, le canon c'est mon gosier, les boulettes pourront chanter, tu finis criblé de rimes. V'là mon coup d'épée, le tour est joué, c'est pas du réchauffé, ni mon premier coup d'essai. Coup d'essai, le son c'est mon péché mignon, mi-homme, mi-homme. Rimeur à gage, prépare des comptes, à cet instant mon âme est sombre. Mais de quoi tu te mêles? Laisse-moi faire mes affaires, c'est pour les frères. Quand c'est faire du bon son vide, je le ramène, je coupe le shit dans la mêle. Je parle même quand je suis censé me taire, vénère quand je ressens ces pertes et faudra. Tu t'en rappelles, je vois que les types se barrent, ça fait clic clic pas. Moi je clic ça, du son lourd au kilogramme. Je blesse le beat avec la zik, je suis polygame. Autodidacte, dès que j'ai su enfiler le casque. Où sont les chroniqueurs, v'là du bon son pour les connaisseurs. C'est de la liqueur, rimeur, killer, provocateur. Avant d'être un bourreau des cœurs, on a bien le style innovateur. Chacun son taf, alors fais ton boulot et cut au bon endroit. Ça sent le turbo, quand je trace la plupart de ces gens célèbres, on sort du lot. J'ai des rimes tout droit sorties des ténèbres, on sent le culot. Toute cette électricité dans l'air, mon seul boulot. Toujours rappé, même en guerre. Appelle-moi Radmaré, dans une zone désertique ou courant d'air glacé. Au cœur de l'incendie, je suis le spice humain. Sur ton rap froid et fade, franchement, je reste intègre. Je rappe ni pour les fans et les femmes. C'est l'ego trip qui refroidit comme une sombre assortie du gaufre. Je déboule solo sans une armée de gorilles. On a ramé, rappé nos vies. Tout ce qu'on fait est inédit, y'a pas de photocopie. Mais je te
cache pas qu'il y a des fautes dans les copies.
Je reste nerveux, donc je moque l'herbe.
Faut que je déstresse
mes merdeux sur cette terre.
Faut de l'espèce.
En guerre, on vit l'enfer.
Pire que les States.
Cernent nos visions ternes.
Et tout ce qui blesse.
Appelle-moi bloc de ciment au milieu d'une nature super belle. Ou jolie plante en dead zone si la vibe c'est mortelle. Je te mets au fin part, te plains pas, je roule plein phare sur la route du rap. J'éclaire l'asphalte, puis je mets les gaz.
Là où on squatte, c'est pas la parade de Walt Disney. Lorsqu'on parle, ce qui nous touche, et les endroits sinistrés dans mon rap. Il y aura toujours une chute, pas de charabia. C'est ma balade où personne n'est pris pour un yinche comme à la chambre.
On devient dingue ici, tu sais que pour se casser, y'en a plus d'un qui hésite. Putain, je résiste, la force devient de plus en plus agressive. Connard, je réside dans la seule ville où mon art existe. Et là, je récite toute ma technique pour te prouver qu'on a le lexique.
J'ai la folie d'Hendrix, le groove de Bootsy Collins. Marie McLean, mouvementé comme du booty shaking. Calme comme un Zion, underground tel Zion Heights. Et la jungle comme Ozaïr, elle a grandi sans Yuma.
Rimeur à cage.
Nos textes, on parle de petites frappes. J'ai frit ton shit.
I'm a cop, so I can take the money. Never have to run, to run.
Tout le monde est poing levé, on a la parole.
J'abats mes cartes, je penche le mal. J'balance mes phrases, pratique normale. J'ai la face fade, car on passe pas. Fort quelle lettre, il m'a l'air mal.
Liquide noir en pièce, large.
D'un point sans pile, batterie.
Un peu de tease, un bout de shit, un crack free.
Pas de prise de tête.
Hey, my shit to make you fake.
Follow me with my syllable, syllable, lyrical criminal.
Rimeur, Agage, prod, honneur. Extrait de l'album XL par NCA Crew. Non, le poste n'est pas déréglé. J'ai bien lu tout ce qu'il fallait lire. Ce sont un groupe d'artistes que vous retrouvez sur dogmazic.net/NCA en minuscule, tiré ou souligné. Crew, C-R-E-W. C'était en licence Creative Commons by NC, non commercial, ND, non dérivé 2.0. Allez télécharger librement, profitez-en, c'est encore possible. On poursuit Solution Linux 2010 avec toujours le village associatif. On était bien, on y reste. Et avec Framasoft.
Je suis avec Alexis Kaufmann de Framasoft. Qui va nous présenter, qu'est-ce que Framasoft pour nos auditeurs sur divergence numérique.
Bonjour, donc Alexis Kaufmann, je suis professeur de mathématiques dans un lycée français à l'étranger, à Rome. Et je suis à l'initiative, il y a maintenant, 8 ans déjà, de Framasoft, qui au départ était un projet au sein de l'éducation entre une professeure de français et un professeur de mathématiques, moi-même, et qui est devenu avec le temps un vaste réseau de sites et de projets d'utilisateurs autour du logiciel libre. Donc nous, notre caractéristique, c'est vraiment de... Bon, maintenant on a quelques développeurs, mais c'est entraide, diffusion, aide à la découverte, accompagnement à la migration autour du logiciel libre. Et on s'est un petit peu, avec le temps, on est devenu... Il y a plusieurs sites et plusieurs projets. Quand vous allez sur framasoft.net, qui est l'adresse principale, vous arrivez sur un vaste annuaire, qui est un peu le site de démarrage, qui est un annuaire de logiciels libres classé et commenté. Maintenant, on en a 1500, donc qui vous aide à trouver un logiciel selon vos besoins. Et puis, autour de ça, s'est greffé un projet, ce qu'on appelle la Framaki, qui est un ensemble de logiciels portables au départ sous Windows, mais maintenant, on peut aussi booter sous Linux. Notre première distribution, c'est Ubuntu, mais il y en aura peut-être d'autres à l'avenir. Donc, la Framaki, qui est aussi un produit qui marche bien. Notre caractéristique, c'est que on peut vendre certains produits, comme les délivres, la clé, mais évidemment, tout ce qu'on produit, c'est sous licence libre. Toutes nos ressources sont sous licence libre, ce qui donne confiance et ce qui permet aussi d'agréger une communauté ou en tout cas des gens qui sont prêts à travailler avec nous, puisque personne ne s'approprie quoi que ce soit, puisque c'est aussi l'intérêt des licences libres. Donc j'ai cité Framaki, il y a aussi le projet Framabook, qui est une collection de livres libres sur le logiciel libre. Donc on a 6 volumes, le dernier qui est sorti, qui est une biographie de Richard Stallman. Qui pour nous est le dernier récent gros événement, parce qu'au départ c'est une traduction qu'on a menée collaborativement sur des wikis et puis quand on a contacté Richard Stallman pour lui dire qu'on était en train de traduire la biographie originale en anglais. Il nous a dit oui, mais attendez, la version originale, elle a quand même. Il y a beaucoup d'inexactitudes. Est-ce que je pourrais modifier deux, trois petites choses? Alors on a fait oui, bien sûr, Richard, vas-y. Et en fait, il a modifié 30% du bouquin, donc ça donne quelque chose de. Ça donne une biographie nouvelle, finalement. Et commenté et annoté par le sujet même. Alors c'est assez étrange, mais ça donne un produit qui est assez intéressant. Et d'habitude, on a l'habitude d'éditer les livres chez In Libro Veritas. Et là, pour celui-là, comme il avait quand même un caractère exceptionnel, on l'a édité chez Erol. Mais c'est toujours pareil, les versions numériques du livre, vous les trouvez gratuitement sur framabook.org, dans leur intégralité, avec les sources, etc. Donc, on est vraiment fidèle à cette idée de rendre accessible les logiciels et aussi la culture libre. Voilà. Ça, c'est pour le projet Framabook. Ensuite, on a un forum, on a un blog, le Framablog que j'anime, qui est un observatoire au quotidien des avancées du logiciel libre et même au-delà de la certaine forme de culture libre. Alors, on ne sait pas très bien ce qu'on met dedans dans le mot culture libre, mais disons que ce sont des initiatives pour aller au-delà du logiciel et rencontrer les biens communs. Des biens communs qui sont malheureusement pas mal attaqués par une logique économique ambiante qui peut rendre souvent problématiques les choses. On l'a vu avec Adopi, on voit avec l'Alopsy, l'ACTA, enfin c'est assez intéressant de pouvoir donner nous aussi notre point de vue sur l'actualité, parce que si vous laissez faire les grands médias, même si il y a beaucoup de progrès, les journalistes comprennent de mieux en mieux les enjeux, les concepts et les définitions, mais c'est aussi bien de donner notre point de vue, parce que souvent du côté des grands, bon, il peut y avoir certaines collusions entre grands médias, les industries, les politiques. Donc c'est pas plus mal de faire aussi entendre notre voix. Et nous, en ce qui nous concerne, ce blog est là pour apporter des compléments d'informations. Et notre valeur ajoutée sur ce blog, c'est beaucoup de traductions d'articles en anglais qui ne seraient jamais traduits sinon, et qui sur le logiciel libre, mais aussi toutes les problématiques Apple et l'ouverture, Google et l'ouverture, Microsoft et l'ouverture. Et surtout l'éducation, parce que moi, j'oublie pas que moi, je reste un enseignant et il y a beaucoup à faire en France dans le libre éducatif.
Un souhait, un message à passer à nos auditeurs de la part de Framasoft?
Le souhait, c'est que la jeune génération s'empare un petit peu de tout cela, parce que je le constate un petit peu sur ce salon, on se renouvelle pas forcément. On est un peu une génération de trentenaires, 30-40 ans, beaucoup plus que 20-30 ans. Et c'est un peu dommage. Alors, il va falloir qu'on trouve on est un peu ancré dans la génération qui a connu Internet, dans l'avènement d'Internet dans les années 2000. Et la jeune génération, qui est pas mal, comment dire, influencé par le consumérisme, les Facebook, etc. Voilà, nous, le souhait, c'est un petit peu de réussir à sensibiliser les jeunes sur les problématiques qui sont les nôtres et éventuellement les embarquer avec nous, entre guillemets, bien entendu.
Donc une adresse à rappeler.
L'adresse à rappeler, vous tapez Framasoft dans un moteur de recherche, je ne citerai pas de nom, et puis vous tombez chez nous et on vous accueillera avec plaisir.
Merci bien. Donc c'était Alexis Kaufmann de Framasoft. Et vous l'aurez compris, le message à passer, c'est la jeune génération, rejoignez-nous et rejoignez le libre. On va poursuivre toujours cette découverte de solutions Linux 2010 dans Divergence numérique avec du médical pour une fois et avec l'association L.
Je suis sur le stand d'Elle avec Gérard Delafont qui va se présenter, qui va présenter l'association et ainsi que le projet Made in Tux. Bonjour.
Oui, bonjour. Donc moi je suis Gérard Delafont, je suis médecin généraliste à Paris, développeur amateur. J'ai fondé l'association Informatique Libre et Santé qui se concerne au côté professionnel de la santé, pas au côté patient. Il y a d'autres structures qui sont destinées à ça. Donc notre but, c'est de développer et de promouvoir les logiciels libres dans le secteur de la santé. Nous avons un produit phare qui est développé par les membres de l'association qui s'appelle MedinTux, qui est un logiciel de gestion de cabinet médical qui permet de faire aussi bien les consultations, les ordonnances, certificats médicaux, etc. Mais également, nous suivons de près un certain nombre de logiciels tiers, tant qu'ils sont libres. Je pense à des logiciels, par exemple, pour exploiter les scanners en 3D sur ordinateur. Nous sommes en relation avec certains auteurs de ce type de logiciel. Donc ce n'est pas réservé à un seul logiciel, c'est l'ensemble du secteur d'informatique libre dans la santé.
Et au niveau du projet MedinTux, donc tu parlais en fait d'interfaçage avec soit des machines, des scanners, comme tu disais. Est-ce que c'est facile d'avoir des informations techniques pour pouvoir travailler avec du matériel, ou est-ce que vous êtes toujours un peu le libre, un peu du mal à avoir des spécifications techniques pour travailler avec?
Nous ne faisons pas beaucoup d'efforts dans ce domaine actuellement, mais apparemment c'est quand même assez compliqué d'obtenir des informations techniques. Ce qui peut être fait très facilement avec MedinTux, c'est d'utiliser n'importe quel programme existant comme un plugin, c'est-à-dire que le programme peut être appelé depuis MedinTux, faire son travail et éventuellement renvoyer un résultat dans MedinTux. Dans ces conditions-là, ce genre d'action peut se faire quasiment sans aucune information technique. En revanche, piloter un appareil directement depuis MedinTux, ça nécessite d'avoir une connaissance très précise de comment fonctionne l'appareil, et actuellement ce n'est pas tellement une voie dans laquelle on travaille, mais ça serait encore des choses à faire.
Au niveau des cabinets médicaux, comment MedinTux est-il perçu ?
Il est souvent pas perçu du tout, parce que la médiatisation dans le monde médical n'est pas facile à faire. Il faut quand même savoir qu'il y a un quasi-boycott de la presse médicale, par exemple, qui trouve que c'est pas très intéressant d'informer ses lecteurs qu'il y a un logiciel puissant, libre, stable, complet. Apparemment, c'est pas intéressant. Du moins si on les en croit, puisqu'il enfin, ils répondent même pas à nos demandes d'interview, bref, quelques rares articles dans la presse médicale, mais c'est vraiment, on sent que c'est fait reculon, quoi. Donc ça c'est assez difficile, c'est pareil, tous les congrès médicaux sont payants, extrêmement chers, donc nous n'avons pas de budget pour faire ce genre de choses-là, donc on n'est souvent pas perçu. Maintenant il se trouve que d'une manière ou d'une autre, les gens finissent par nous connaître, par relation, par internet, par toutes sortes de méthodes, et à ce moment-là, c'est la découverte, enfin, la fascination, quoi. Les gens sont très très étonnés de découvrir un logiciel aussi puissant, dont ils n'avaient aucune idée que ça existait. Et souvent, ils nous posent des questions sur les limites du logiciel par rapport au mode réseau, multi-utilisateurs, qui sont souvent soit impossibles dans les logiciels commerciaux, soit avec des licences très coûteuses, voire du matériel très coûteux aussi, des gros serveurs très puissants, etc. Et quand on leur dit qu'on a un logiciel qui est multi-machine, multi-utilisateur, qui fonctionne avec comme serveur n'importe quel ordinateur bas de gamme, qui a des potentialités de réplication automatique et autres, avec également exploitation d'outils standards de données qui permettent de faire des actions personnalisées, là, ils sont complètement bluffés, quoi. Une des grandes forces du logiciel, d'ailleurs, c'est sa personnalisation. Souvent, les propriétaires mettent un minimum de fonctionnalités avancées, et si vous en voulez des nouvelles, ils vous les font payer. Et ils ne vous donnent pas la possibilité de le faire vous-même, c'est bloqué. Alors, dans MedinTux, il y a un langage de macro qui fait que l'utilisateur peut s'inventer des calculettes, s'inventer des automatismes permettant de créer automatiquement des documents avec un certain contenu, permettant de faire une requête dans la base de données, permettant de faire toutes ces choses-là. Tout ça est à portée de l'utilisateur grâce au langage de macro.
Et actuellement, qui développe MedinTux alors ?
Actuellement, c'est une petite équipe de quelques médecins. Actuellement, il y a une société qui s'appelle Exact Diffusion, qui est une société du Midi, d'Aix exactement, qui écrit des plugins, qui a écrit une interfaçage avec un logiciel commercial de Sésame Vital, qui donc est très impliqué dans le déploiement de MedinTux, qui a réussi à le déployer déjà dans des gros milieux comme des cliniques ou des choses comme ça, donc plus du cabinet individuel ou petit cabinet de groupe, mais dans de la grosse infrastructure avec clinique, y compris l'hospitalisation. Ce pourquoi le logiciel n'était pas conçu au départ, mais sa flexibilité est telle qu'on peut inventer tout un tas de manières de s'en servir. Donc voilà, essentiellement donc quelques informaticiens du côté de Exact et puis quelques médecins qui font ça bénévolement sur leur temps libre.
On va rappeler l'adresse du site MedinTux pour ceux qui veulent regarder ce que c'est et y participer.
C'est très simple, medintux.org.
Et voilà, merci Gérard Delafont, président de l'association AILES. On poursuit toujours ce tour Solution 2010 sur Divergence Numérique, 93.9 FM et divergence-fm.org, avec l'incontournable GCU Squad.
Je suis toujours sur le village associatif et plus particulièrement avec GCU Squad qui fait toujours une présence remarquée lors de ces salons. Déjà, on va présenter qu'est-ce que GCU Squad et votre activité.
Alors, présenter GCU Squad, c'est jamais trivial, dans le sens où on ne représente pas un projet en particulier. GCU, c'est un groupe qui a aujourd'hui 14 ans, qui est né en 96 dans un IUT parisien. Et de fil en aiguille, le groupe a grossi avec un leitmotiv particulier qui est qu'on essaye de ratisser super large et d'avoir le maximum de compétences autour de l'open source. Donc ça se traduit aujourd'hui par un groupe qui est essentiellement présent sur IRC. On poste des news, on poste de l'information, etc. Mais le gros de l'activité se passe sur IRC. Et sur IRC, donc, on a un canal d'ISGCU sur Freenode qui comprend environ 150 personnes. Et dans ces 150 personnes, ce qu'on essaye vraiment d'obtenir, c'est des profils les plus variés possibles et surtout de ne pas s'enfermer sur un OS, une techno, un logiciel, mais de ratisser encore une fois le plus largement possible. Et de fait, on a dans le groupe des committeurs FreeBSD, des committeurs NetBSD, des committeurs OpenBSD, on a une personne qui s'occupe de LM Sensors sous Linux. Bref, on essaye vraiment d'avoir un maximum de gens avec des profils variés pour garder en quelque sorte une connaissance la plus vaste possible du monde du logiciel libre. C'est la seule composante non négociable, c'est que les gens qui sont sur le canal doivent participer ou en tout cas utiliser des logiciels libres dans leur environnement. Et la sélection se fait là-dessus.
Et donc, en fait, c'est un énorme pôle de compétences entre vous. Et vous en faites quoi? Je veux dire par là, vos actions, c'est quoi?
Alors, c'est une excellente question. Alors, la chose la plus visible, c'est que ces 150 personnes donc, qui sont sur le canal sont sur IRC, je dirais pratiquement 24 heures sur 24, dans le sens où on a des gens à peu près dans le monde entier. C'est un groupe francophone de facto, on l'a pas forcément choisi, mais voilà, il se trouve que on parle tous français, ou en tout cas on essaye. Par contre, on a du monde au Canada, on a du monde à Nouméa, au Mexique, enfin c'est assez vaste, en Chine là depuis cette année. Et l'idée, c'est d'avoir, tu vois, cette espèce de pôle de compétences qui est là en permanence. Et de fait, souvent on entend soit nos patrons, soit les gens autour de nous dire mais IRC c'est pas productif, vous perdez du temps, vous dites des conneries, et voilà. Sauf que dans la réalité des faits, évidemment on travaille tous dans différentes sociétés. Aujourd'hui, poser une question sur GCU, sur le canal, c'est l'assurance d'avoir 150 personnes qui vont voir ta question et répondre à ta question avec leur expertise. Et très très souvent, et pratiquement tous les jours, on a des gens qui arrivent avec des questions relativement pointues. Alors ça peut être de la programmation, ça peut être des questions sur l'hébergement, la haute disponibilité, la scalabilité, enfin tout ce que tu peux imaginer qui fait intervenir du logiciel libre. Et tu as généralement des réponses super fiables parce que c'est des gens qui ont déjà mis les mains dedans, qui parfois sont même partie prenante dans la proposition qu'ils vont te faire. Je prends un exemple qui date d'il y a une semaine. Moi, j'étais à la recherche d'informations sur la haute disponibilité. Mais il se trouve qu'il y a quelqu'un du canal qui participe au projet HAProxy et qui m'a donné des informations cruciales sur pourquoi prendre une solution plutôt qu'une autre. Il se trouve que je n'ai pas pris la sienne, mais on en a discuté justement. Et il m'a expliqué que dans mon cas de figure, ce serait effectivement une meilleure idée de basculer sur IPVS. Voilà, ce genre d'expertise-là, elle prend quelques minutes sur IRC avec des vrais gens au bout du fil, entre guillemets. Ça te prévent d'aller chercher à droite, à gauche, de payer du consulting, mine de rien. Et donc ça fait que, comme je te disais, la sélection, elle est un petit peu sévère à l'entrée, dans le sens où étant donné que l'information est importante, enfin celle qu'on donne, je considère qu'elle est importante et qu'elle est souvent très bonne, je veux m'assurer que les gens qui reçoivent cette information, ce sont des gens qui font un minimum d'efforts pour le logiciel libre et qui ne sont pas oisifs par rapport à la communauté. C'est-à-dire que j'insiste vraiment sur le fait qu'il y a énormément de développeurs dans le groupe et de gens qui participent effectivement de manière productive au mouvement open source. Quand je te disais tout à l'heure qu'on avait des committeurs dans tous les projets, c'est des committeurs qui passent énormément de temps bénévolement pour le logiciel libre. Alors parfois ils ont la chance de pouvoir le faire au boulot, c'est pas toujours le cas. C'est pas mon cas par exemple, c'est du temps que je donne. Parce que ça me fait plaisir aussi, hein. je suis pas suicidaire, je suis pas masochiste, ça me fait plaisir. Mais en même temps, on donne de notre personne, on donne de notre temps, et de ce fait, on attend que la communauté derrière qui veut avoir de l'information, elle fasse un effort.
Qui est vraiment un échange entre tous les membres donc de cette communauté-là, GCU Squad. Alors sur Solution Linux, vous avez toujours des tenues qui ressemblent pas forcément à ce qu'on peut trouver. Et avec des actions assez particulières. Peux-tu nous en parler un petit peu plus ?
Avec plaisir. Donc sur les actions qu'on mène sur le salon, donc effectivement depuis quelques années maintenant, on fait ce qu'on pourrait appeler n'importe quoi sur le salon. Maintenant, c'est à peu près ce qui se passe sur le net, sur IRC, sur le site. On a pris le parti de jouer la dérision. Pour une raison très simple, et je vais prendre comme exemple qui s'est passé hier autour du stand Microsoft. Tu as deux manières d'aborder les menaces du logiciel propriétaire et de la communauté, si je peux parler ainsi, du propriétaire envers le logiciel libre. Tu peux le prendre sérieusement et avoir évidemment un argumentaire extrêmement bien construit comme l'April par exemple, l'AFUL et tous ces groupes extrêmement bien structurés, politiquement présents et qui font un travail absolument extraordinaire. Nous, premièrement, on n'aurait pas le temps de faire ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté avoir cette position technique forte d'entraide, etc. et en même temps avoir une organisation. GCU n'est pas une association par exemple, hein, c'est un groupe. On n'a jamais posé de statut et c'est volontaire. C'est-à-dire qu'on veut garder cet esprit un petit peu anarchique et jeune, entre guillemets, pour pouvoir se permettre à peu près ce qu'on veut. C'est pas forcément pour éviter des ennuis, c'est juste qu'on n'a pas forcément le temps et on n'a pas forcément envie. Après, la position de GCU sur le salon, ce qu'on essaie de faire tous les ans, c'est des événements chocs, mais avec un message. L'action qu'il y a eu autour du stand Microsoft, elle était, bon, comme d'habitude, on a hurlé dans tous les sens, on a jeté du riz, on a peint leurs murs, on les a encadrés, etc. Mais il y a une dimension symbolique forte derrière ça, qui est qu'aujourd'hui, tu as des gens... Bon, Microsoft est l'exemple absolu, parce que ce sont les gens qu'on combat depuis un certain temps. C'est pas gratuit, c'est-à-dire que c'est pas exclusivement le fait que ce soit Microsoft et qu'il faille absolument leur rentrer dedans. C'est que ces gens mènent un double discours qui est absolument immonde, dans le sens où ils viennent ici, bon, qu'ils y soient, pourquoi pas. Maintenant, qu'ils communiquent sur le fait qu'ils ont toujours cru dans l'open source, qu'ils participent comme jamais à l'open source, qu'ils croient en nous et que c'est super ce qu'on fait et qu'ils vont nous aider, c'est quelque chose qui me fait vraiment... Ça me gratte le dos, quoi. Parce que nous, on combat ces gens-là depuis un certain temps et ces gens-là nous combattent très fortement. Le message qu'on a voulu amener hier, par exemple, c'est d'encadrer ce stand avec la communauté qui est aujourd'hui forte et puissante. Et le stand est grand quand même. On a réussi à avec tout le village. Et pour ceux qui vont écouter l'émission, j'aimerais vraiment les remercier d'avoir participé à l'événement, parce que c'était vraiment symboliquement très fort. La communauté de l'open source francophone qui était ici a encadré ce stand et leur a dit, le message c'est: on est là, on est encore plus nombreux qu'avant. Vous n'avez pas gagné, vous ne gagnerez pas, et on est toujours là pour lutter contre les menaces que vous faites peser sur nous. Parce que ces fameux brevets, sur lesquels d'ailleurs ils nous ont clairement expliqué qu'ils ne reviendraient pas dessus et que c'était leur fonds de commerce et qu'il fallait vivre avec, à la fin, c'est une épée de Damoclès qui est sur la communauté. On doit vivre avec. Comme je te l'ai dit, nous, on est pas mal de développeurs qui potentiellement sommes à l'encontre de, sommes menacés par des brevets que Microsoft dispose. Je leur ai parlé par exemple hier de Sudo. Sudo, c'est une technologie qui a été faite, qui a été écrite par la communauté il y a 2 ans. Ces mecs-là ont déposé un brevet sur la capacité à un utilisateur de devenir administrateur en tapant un mot de passe. C'est-à-dire, ça, c'est la réalité. C'est pas de la langue de bois et c'est pas ce qu'ils racontent dans les interviews chez BFM et compagnie. Eux, évidemment, enfin, c'est un discours très, très technique et ils en jouent, évidemment. Ils ont des armées de gens au marketing, au commercial, etc., qui sont en mesure de vulgariser toutes ces notions-là. Et de fait, justement, l'approche qu'on veut avoir, ce n'est pas une approche purement technique, mais une approche provocante pour mettre le doigt là où ça fait mal et leur faire dire exactement, expliquer aux gens ce que vous faites, expliquer la menace que vous représentez et pitié, arrêtez la langue de bois.
Merci GCU Squad par l'intermédiaire de Emile qui se reconnaîtra et de toute la bande qui était bien sympathique. Je suis avec Pierre-André et Cédric Chapuis de Montpellier qui était aussi présent dans le village associatif Solutions Linux 2010 pour une première participation. Alors ton ressenti, vos ressentis?
Mon ressenti, c'est que c'était un moment très agréable. Il y avait pas mal de gens qui faisaient des choses un peu pareilles ou un peu différentes que Montpellier Libre. C'était des gens qui avaient un point commun pour presque tous. C'était d'être ouverts et curieux. Donc les deux se mariaient bien. C'était de passage de stand en stand, des gens qui venaient voir Montpellier Libre, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous développez, et puis après donc Montpellier Libre présentait ses différentes activités, les install parties, enfin, et d'autres grands projets. Et pendant ce temps-là, les gens de Montpellier Libre aussi de notre stand ont tourné dans le village à la recherche d'informations et à chaque fois c'était ouvert. Nous, on développe telle technique, telle technologie, on travaille sur ce type de projet, on programme sur tel OS. Enfin, c'était vraiment très 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 bien. C'était vraiment un bon moment et je compte d'ailleurs aller au prochain salon parce que c'était pour une recherche d'informations aussi. Il y avait pas mal de développements qui étaient vraiment surprenants et qui sont certainement les développements du futur.
Donc, prochain Solution Linux 2011, vous l'aurez noté en début d'émission, c'est le 3, 4 et 5 avril à confirmer tout de même et ce sera aussi au Parc des Expos. On va parler Install Party puisque ça se passe aussi ce samedi donc à la médiathèque André Malraux en très court puisqu'il nous reste très peu de temps dans l'émission avec Cédric. Donc,
Oui, moi j'étais juste passé pour parler au nom de Pascal et de Montpellier Libre, dire que nous sommes sur le Net en fait, qui est la manifestation des médiathèques de Tau pour le Libre en fait. Et donc nous sommes sur la manifestation globale et surtout nous vous donnons rendez-vous samedi pour une install party.
On va lancer le générique de fin pour dire que ce soir, jeudi à 20h, pas moins que dans 2 minutes, si mon horloge temporelle veut bien démarrer. C'est les Last Jeudi, donc au Mample Libre, place Saint-Côme, le rendez-vous de tous les acteurs du libre de la région, et j'ai bien dit de tout, et vous l'aurez compris, une soirée détente, tranquille, à partir de 20h. Et puis l'agenda du libre, on va faire très très court, ça va être agendadulibre.org. Et soyez libres, et à la semaine prochaine, merci de nous avoir écoutés. Terrorist networks, terrorist states, terrorist networks.